Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello, je suis Léa.
Et moi Mathilde.
On est ici pour vous parler de santé mentale via notre podcast Salut ça va by Take Care.
Je suis psychologue clinicienne.
Et moi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux.
On revient dans cette saison 2 pour vous poser la question comment ça va
et accueillir à notre micro vos parcours de vie. Bon épisode. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Salut ça va. Je suis toujours accompagnée de Mathilde, mon acolyte.
Bonjour à tous.
Et aujourd'hui, on est très heureuse d'accueillir Anthony à notre micro. Anthony Bonbon, merci beaucoup d'être là.
Merci pour l'invitation, bonjour à toutes les deux.
C'est assez fou parce que mon équipe, quand ils vont entendre cet épisode, et je pense que tout le monde peut en témoigner, il s'est passé quelque chose il y a quelques mois. J'ai fait écouter obligatoirement à toutes mes équipes, sans qu'ils n'aient le choix, un des épisodes de podcast que tu avais enregistré, je me souviens plus lequel, dans tout le bureau, en résonance sur nos... Et j'avais dit, je ne sais pas pourquoi, je sais qu'on va se rencontrer un jour. Elle m'avait dit, arrête, c'est bon, arrête avec tes trucs, tout. Je sais pas, je vous dis, ça va se faire. Et ce jour est arrivé, donc je sais pas si on peut appeler ça, tu vois, le fait de manifester, comme on dit, on aime bien ce truc-là, mais faut croire en ses rêves. Je pense que c'est ce dont on va parler aussi aujourd'hui. Alors, après, j'arrête de parler. Mais Anthony, on aime bien dans ce podcast proposer à nos invités de se présenter un peu différemment. Si un ami proche devait te présenter à des inconnus, qu'est-ce qu'il dirait de toi ?
Il dirait sûrement que je suis un peu fou, mais très déterminé, très passionné, résilient. Et donc, il y a de grandes chances que j'arrive à aller où je veux aller. Tu le disais en préambule. Forcer son destin. Moi, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas au hasard, mais je crois beaucoup à la détermination quasi inconsciente de ce que tu peux générer par ton énergie, par ta détermination, et que tu peux accéder et accélérer même des leviers sans même t'en rendre compte. Et certains diront « Ah, c'est de la chance, c'est le destin ». Et en fait, non, c'est juste que tu étais tellement obsédé et déterminé que tu as réussi à obtenir ce que tu voulais au fond de toi. Donc, ouais, voilà. Il dirait peut-être que je suis fou quand même en premier.
Mais je pense qu'il faut être un peu fou pour être entrepreneur. Enfin, il y a en tout cas une prise de risque, tu vois, une certaine forme de folie, mais...
De la folie, et puis il y a aussi une part d'ego. Certains vont dire que c'est de l'ego démesuré, mais en fait, il faut déjà avoir assez confiance en toi pour te dire « je vais faire mieux que ce qui existe ou mieux que ce que les autres pourraient faire ». Donc déjà, il y a une part d'optimisme qui est vraiment nécessaire à toute réussite, d'ailleurs. C'est croire en soi, mais aussi ne pas rester dans le statique, aller dans le mouvement, foncer, mettre le premier pas. Et à partir du moment où tu te lances, généralement le reste en découle. Donc ouais, sûr
de soi. En tout cas, il faut du passage à l'action.
Ouais, c'est vrai.
Toujours.
On en parle parce que tu peux avoir les meilleures idées en fait tant que tu fais pas le premier pas. Ça mène à rien.
Mais c'est ce passage à l'action qui est souvent bloquant hein, quand on a par anticipation, par peur, par anxiété, enfin bref, qu'importe. Mais... Ouais. Et c'est souvent le premier pas le plus dur. Mais une fois que tu as enclenché quelque chose et que tu as mis des actions en place, c'est toutes ces actions qui font qu'au final, il y a quelque chose qui se crée derrière.
Et des sacrées choses en ce qui te concerne. On va revenir un peu il y a quelques années. Quel enfant étais-tu et quels étaient tes rêves à ce moment-là ?
J'étais un enfant sage, bizarrement, et j'ai empiré au fur et à mesure de ma croissance. Mais non, j'étais un enfant sage, j'étais plutôt bon à l'école, contrairement à ce qu'on attend des entrepreneurs qui sont souvent un peu des branleurs, qui ne travaillent pas. J'étais plutôt un bon élève. Maintenant, je n'étais pas très épanoui parce que j'avais une famille compliquée, père violent, mère dépressive. Donc à la maison, ce n'était pas l'éclate. Et bizarrement, c'est quand je me suis retrouvé à la rue très jeune que j'ai réalisé que la vie était cool. Donc c'est paradoxal parce qu'il y en a souvent qui me disent « Ah, ça a dû être dur ». Et en fait, non, parce que je me sentais libéré. Donc j'avais beaucoup moins de moyens, j'étais beaucoup moins dans le confort, on va dire, quotidien. Mais j'avais l'esprit qui s'était ouvert et ça me permettait de sortir de ces habitudes qui aujourd'hui me semblent complètement folles, mais à l'époque qui était mon quotidien, à savoir regarder le JT de 20h tous les jours à la même heure, manger à 19h pétante, se coucher à 20h30. Et c'est ce rythme de vie qu'avaient instauré mes parents qui était vraiment compliqué à assumer. Et c'est pour ça que même si certaines périodes de votre vie vont vous paraître sur le moment extrêmement compliquées, injustes, c'est parfois une chance et il faut être capable de le saisir, capable d'aller de l'avant. Et tu le disais très justement, l'action mène à la stratégie et pas l'inverse. Donc être dans le mouvement.
L'école, est-ce qu'à l'époque, c'était un refuge pour toi? Ou du moins, est-ce que tu as le souvenir avec le recul? Peut-être tu disais que tu n'en avais pas forcément conscience, parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais psychologiquement, je pense qu'un enfant, quand il vit ce qui peut être de plus terrible, il n'est pas en train de se dire que c'est terrible ce qu'il vit. En fait, il vit juste et il s'adapte comme il peut. Toi, est-ce que l'école, ça a été un échappatoire, ou du moins quelque chose auquel tu as pu te raccrocher d'une certaine façon?
Pas vraiment, parce que malheureusement, on a souvent l'école de ses moyens financiers. Et quand les enfants bien nés vont dans les écoles privées avec des bons professeurs qui peuvent faire du tennis en sport ou de l'équitation, moi c'était plutôt des professeurs absents, des lycées de banlieue ou des collèges de banlieue, où vraiment on n'était pas là pour essayer d'accompagner l'enfant vers son épanouissement, mais plutôt pour lui faire faire un minimum d'heures de cours légales. Donc du coup, non, je ne me suis pas éclaté, je n'ai pas trouvé ça adapté à ce que moi j'en attendais, et je pense qu'il va y avoir de grandes évolutions dans le milieu de l'enseignement de manière générale, parce qu'on ne tient pas compte du plaisir des enfants. Et un truc qui est choquant à mon sens, et j'en parle dans le bouquin, c'est qu'on te demande de choisir après la troisième, donc quand tu as 16 ans, quelle voie tu veux faire. Et alors là, c'est impressionnant parce que tu as S, STI, STT, STL, ES, enfin, je sais pas, tu en as 25, donc avec des noms qui veulent rien dire. Et en fonction de ce choix que tu dois faire à 16 ans, 80% de ton activité professionnelle va se définir. C'est-à-dire que si tu as fait un bac STT, bon, ben, on va te pousser vers faire de la vente ou je sais pas quoi, et donc tu vas rester vendeur naturellement toute ta vie. Alors qu'en réalité, à cet âge-là, on devrait plutôt demander aux enfants, qu'est-ce qui te plaît? Ouais. Qu'est-ce que tu fais le week-end? Est-ce que t'aimes peindre? Est-ce que t'aimes chanter? Est-ce que t'aimes courir? Est-ce que t'aimes voyager? Est-ce que t'aimes... Enfin, peu importe. Et en fonction de cette passion, lui dire, bah, va dans cette direction parce que ces études vont t'apporter. Et ça m'a toujours interpellé de voir des jeunes s'engouffrer dans un funnel quasiment.
Ouais, ce déterminisme en fait.
Ouais, c'est le déterminisme à la fois social par ton argent, déterminisme scolaire, déterminisme. Et c'est ça moi qui me perturbe, et c'est pour ça que j'essaie vraiment de dire aux gens, forcez votre destin et allez beaucoup plus loin que ce qu'on vous demande, parce qu'on ne réalise pas tous autant qu'on est le potentiel. Et quand je dis le potentiel, c'est pas du tout la méthode Coué, un peu exagérée. Oui, tu peux tout faire, tu peux te lever le matin et devenir riche 3 semaines après. Ça, c'est faux. Tu dois travailler beaucoup, être très patient. Mais ce qui est sûr, c'est que tu peux au moins être épanoui. Et te poser les bonnes questions te permet de chaque jour mettre un pas devant l'autre pour aller un peu plus vers tes objectifs personnels.
Ouais, c'est la possibilité en fait déjà, parce que je pense que t'en parles beaucoup et c'est hyper important ce message que tu portes. Le déterminisme social en fait, il t'enferme dans quelque chose où tu n'as pas de possibilité, c'est-à-dire que t'es déjà condamné avant même de te poser la question de savoir ce que tu veux faire de ta vie à des âges qui sont très jeunes. Enfin, j'imagine quand on se construit, c'est...
Bah, 16 ans, c'est jeune. Hein. Enfin, ouais. Puis 16 ans, décider ce que tu vas faire le reste de ta vie, c'est encore plus... Enfin, mais de toute façon, ils ont la pression. Hein. Enfin, ils le vivent pas super bien. Hein. Et puis, je sais pas vous, mais moi, je me rappelle pas non plus l'avoir... Enfin, c'est quand même... T'as l'impression que c'est un peu le choix de ta vie. C'est ça, en fait. T'as l'impression que c'est le choix de ta vie, alors que ça devrait pas déterminer ta vie.
Parce que je pense que depuis le début de ton entrée à l'école, en fait, t'as ce truc-là où t'as le bac qui était vu comme le sésame, un peu, ou du moins qui te permettait d'accéder, et en fonction justement de ton milieu social, etc., ça déterminait déjà où est-ce que t'allais finir, en fait. Et il y a ce truc-là où l'école devient un centre de qui tu es, et il y a plus du tout de place à l'individu, en fait, à ses valeurs, en fait, qui sont hyper importantes. Et toi, t'en parles beaucoup dans les entreprises, l'entreprise que t'as créée. Comment c'est arrivé justement, Fit? T'étais dans quel état d'esprit au moment où t'as entrepris? Parce que je sais que t'as entrepris plein d'autres choses avant d'arriver à Fit, mais pour être là où t'en es aujourd'hui, comment ça a commencé? T'étais dans quel état d'esprit?
Moi, j'ai eu la chance de pas avoir le choix. Donc, comme j'étais à la rue et que j'avais pas d'argent, il fallait que je crée, il fallait que je mange, et ça s'est imposé naturellement à moi, et il se trouve que j'ai aimé ça. Donc, encore une fois, faire de ces malchances une chance, et puis ne pas se poser trop de questions, faire ce qui vous plaît. On a tous des compétences innées. C'est-à-dire que moi, j'étais très mauvais, j'ai fait un stage en direction juridique, c'était une catastrophe, tout le monde me trouvait extrêmement nul parce que c'était pas mon cadre. Moi, je suis plutôt un mec à 50 idées à la seconde, pas très cadré, et là, il fallait que je fasse des promesses inalagmatiques toute la journée à la chaîne. J'étais vraiment au bord de la dépression, et pourtant, j'étais dans un cadre où j'étais correctement payé, dans des beaux immeubles haussmanniens. Donc, se poser encore une fois la question de qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce qui m'amuse, et il se trouve que Feed, quand j'ai lancé, cocher toutes ces cases. Moi, j'avais fait beaucoup de natation, beaucoup de sport quand j'étais jeune, et j'avais l'habitude de peser mes ingrédients pour les protéines, les lipides, les glucides. Ensuite, j'étais au contact de la faim une nouvelle fois et de la nourriture quand j'étais à la rue. Je me suis dit, c'est quand même bizarre, on est une 5e ou 6e puissance mondiale, et un jeune comme moi qui a 18 ans, qui a vraiment rien fait de mal, je peux pas manger. Et aujourd'hui, on boit de l'eau potable, ça nous paraît tous logique. Mais en réalité, dans quelques années, je suis persuadé qu'il y aura de la food, pas forcément liquide, mais de la food à foison qui permettra à n'importe qui de se nourrir. Et quand je lance Fit, c'est un peu dans cet état d'esprit, c'est de me dire, il y a des problèmes avec la nutrition. J'avais de l'argent, je mangeais mal parce que j'avais pas le temps. Quand j'étais pauvre, je pouvais pas manger. Je voulais aller dans ce sens-là. Et je trouvais que ça allait dans mon storytelling personnel de dire, la food est importante. Et ça te permet d'être dans un bon état d'esprit et ça te permet d'atteindre tes objectifs.
Ça répond à des valeurs, à des valeurs hyper importantes pour toi. C'est pour ça que ça t'a animé et que t'as trouvé des solutions à mettre en place du coup pour aller vers ça en fait.
Enfin, quand t'entreprends aussi, tu réponds à une problématique qui est soit personnelle, soit quelque chose qui t'anime en fait. Et je pense pour ça que t'arrives à le porter encore aujourd'hui, même si t'es plus à la rue et que j'imagine que te nourrir n'est plus autant une difficulté que ça l'était, même si quand on est entrepreneur, on a moins de temps. Donc justement, ça enchaîne avec le sujet que je voulais aborder sur comment est-ce qu'avec un rythme aussi intense, puisqu'on sait que Feed voilà, a eu et a toujours un grand succès, que ça a forcément développé beaucoup d'aspects de travail et de gestion d'équipe et de tout ce qu'amène une entreprise, comment tu gères ta santé mentale avec un rythme de vie aussi intense ?
Ouais, c'est pas facile. Déjà, j'aime ce que je fais. Je pense que c'est le premier point le plus important à mon sens, c'est prendre du plaisir. Et ce qui pourrait paraître pour certains une vie un peu morose ou un peu triste, moi, me fait du bien. C'est-à-dire me lever tôt et travailler beaucoup, faire beaucoup de visio, rencontrer des gens, investir, entreprendre, lancer des projets, ça me nourrit. Vraiment, c'est comme pour certains, regarder un Netflix ou jouer aux jeux vidéo. Moi, j'adore. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que j'ai essayé de mettre en place un calendrier qui soit militaire, de manière à ce que je puisse aussi avoir du temps pour des activités qui sont, à mon sens, importantes, à savoir bien dormir, avoir le temps de lire. Vraiment des trucs qui me font du bien. Maintenant, clairement, il y a du compromis. Et être épanoui, c'est accepter les compromis. Typiquement, moi, je ne peux pas partir en vacances très souvent. Je ne peux pas me faire des week-ends avec mes potes. Je ne peux pas aller en boîte de nuit. Je ne peux pas aller au cinéma. Je ne peux pas faire des dîners.
Mais ça te fait souffrance ou pas ?
Mais ça ne me fait pas du tout souffrir parce qu'en fait, je sais pourquoi je le fais. Et c'est pour ça que la priorité, c'est de se fixer une mission, une grande plateforme personnelle. Et de dire, quel est mon objectif ? Moi, mon objectif, c'est de faire une révolution dans le pays. Donc, c'est de changer les choses pour que le peuple puisse reprendre son destin en main. Ça fait très révolutionnaire en mode on va tout casser, mais ce n'est pas le cas. Au contraire, le but, ce n'est pas de brûler des voitures ou de casser des vitrines. C'est plutôt de dire aux gens, vous pouvez faire ce que vous voulez, quelle que soit votre origine, et vous allez sortir des carcans. Et au final, il n'y a que ceux qui ne bougent pas, qui ne sentent pas le boulet qu'ils ont au pied. Donc, à vous d'être dans le mouvement, à vous d'essayer de faire des choses. Et très humblement, si avec Feed et toutes les boîtes dans lesquelles j'ai investi une cinquantaine, on peut montrer que c'est possible de s'en sortir, je pense que ça va inspirer une, deux, trois personnes qui elles-mêmes vont en inspirer une, deux, trois. Et c'est un peu comme un caillou que tu jettes au milieu de l'étang. Il y a une onde de choc qui fait que ta réussite personnelle, en tant que telle, n'a pas d'intérêt. Mais c'est cette même réussite qui va vibrer autour de toi et qui va enclencher de nouveaux destins. Et c'est comme ça que toutes les grandes révolutions se font. C'est à la base quelques individus qui se mettent en mouvement et qui ensuite sont suivis par les autres.
Oui, en fait, t'as une mission.
Exactement, ouais. C'est ça, c'est la mission. Et c'est pour ça qu'au final, ça ne me dérange pas de faire des compromis. Il y a plein de gens qui disent « Mais attends, Tony, t'as de l'argent, pourquoi tu fais pas des bons dîners ?» Parce que franchement...
Ça me nourrit pas.
Ouais, ça me nourrit pas. C'est-à-dire que quand je vais faire des dîners, ça m'arrive quand même de temps en temps. Les discussions me plaisent pas, c'est superficiel, c'est des gens qui travaillent pas. Moi, j'ai besoin d'être au contact de gens qui sont dans cet état d'esprit de création. Et c'est pas, j'ai pas que des potes millionnaires qui font du business. J'ai des artistes, j'ai des musiciens. Mais ils sont dans leur passion, ils sont dans leur truc. Et ça, moi, j'adore dîner avec des gens qui me transmettent une énergie et qui ont pas de limites. Parce que je pense vraiment que les gens ont un potentiel insoupçonné qui est fou. Et c'est ce qui me frappe quand je parle avec des gens qui viennent me parler dans la rue, qui me disent « est-ce que tu vois ?» Je leur dis « en fait, vous captez pas que vous pourriez faire des choses incroyables. » Moi, je suis intimement persuadé que si tu veux devenir président de la République, c'est possible. Alors, tu vas pas y arriver demain. Mais si c'est ton objectif de vie et que tu mets tout en place pour que ça fonctionne, je pense que c'est possible. Après, tu vois, il faut rester avec des objectifs qui sont liés à ton histoire personnelle.
Et atteignables.
Ça sert à rien de dire je veux aller sur la lune si tu t'en fous d'aller sur la lune, tu vois, mais si c'est ta mission de vie, mais pourquoi pas, tu vois. Ouais. Et ce qu'il faut, c'est trouver un truc qui est incarné.
Oui, et puis là on parle dans le pro, mais il y a des personnes qui vont se trouver une mission aussi dans d'autres domaines de leur vie et qui sont tout aussi
personnelles, associatives.
Oui, complètement.
Oui, je pense que ça peut être intimement lié. Tu vois, nous on parle, c'est vrai, souvent sur ce podcast des domaines de vie, et quand un domaine de vie te comble
et te satisfait et correspond à qui tu es, vient nourrir des valeurs, vient nourrir ta vision, etc., ça ricoche forcément sur tes autres domaines de vie. Je pense que ton domaine de vie, alors je sais que tu parles pas forcément beaucoup de ta vie personnelle, mais le domaine de vie, voilà, de la vie de famille, du couple, etc., a peut-être beaucoup moins d'importance pour toi, parce que le domaine de la vie du travail est tellement satisfaisant et te remplit qu'il ricoche d'une certaine manière sur tous les autres. Et c'est OK, on n'a pas tous les mêmes ambitions, et c'est important de le rappeler. C'est ce qu'on dit souvent aux personnes qui nous écoutent, qui nous demandent parfois, mais moi je sais pas par où commencer, je sais pas par où aller, et se donner la possibilité de rêver et de se dire qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime être, avec de qui j'aime être entourée. C'est des questions qu'on nous pose jamais. Je veux dire, à l'école on dit qu'est-ce que tu veux faire, mais pas qui tu veux être. Et je pense que ces discours-là, ils sont aussi impactants, parce que ça laisse une possibilité à l'autre de se dire j'existe en tant qu'individu et pas que pour servir un système. Et c'est le cas, mais ça, on partirait à quelques jours des élections présidentielles.
C'est Matrix.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé, et ça t'arrive encore, de douter dans cette, même si tu as une mission, un objectif très, très précis, est-ce que tu doutes ?
Tous les jours. Être entrepreneur ou faire des choses qui te plaisent, je pense que c'est vraiment cette dualité qui est complètement folle. C'est qu'en même temps, tu dois avoir confiance en toi, parce que sinon... tu n'y arrives pas, et si toi tu crois pas en toi, personne ne croira en toi. Mais en même temps, tu dois être dans le doute perpétuel, de manière à te remettre en question. Et donc d'un côté, je suis très sûr de moi, et je peux aller parler devant plein de gens ou à la télé sans broncher, et le soir quand je rentre, je me dis, est-ce que t'as été bon, est-ce que tu penses que tu pourrais faire mieux, est-ce que t'es sûr d'avoir dit la bonne chose. Et donc il faut renvoyer un peu cette image de le mec a l'air à l'aise ou la nana a l'air à l'aise, et en fait non, c'est très compliqué. Il y a pas de réussite facile, mais c'est ce que font les grands athlètes ou les grands businessmen ou les grandes speakeuses. Ça paraît toujours simple de l'extérieur, alors qu'en fait il y a un vrai travail intérieur, mais c'est aussi ce que tu dois faire, quasiment avoir un côté divin, j'exagère, mais tu vois, oh, il marche sur l'eau, c'est facile. Alors qu'en fait, non, il y a un énorme travail derrière. Et ce travail, on ne le voit pas, et c'est la partie immergée de l'iceberg.
Ouais. C'est trouver l'équilibre entre le pas de doute et le trop de doute. C'est-à-dire que quand tu doutes plus, pour moi, tu n'avances plus. Enfin,
ouais,
si tu doutes plus et que tu as des certitudes et que, voilà, ben, au bout d'un moment, tu te renouvelles plus, ainsi soit-il. Quand tu as trop de doutes, à l'inverse, tu passes plus à l'action aussi. Donc c'est toujours l'équilibre entre...
Ouais, c'est même le côté, tu vois, t'as ton auto-satisfaction et l'exigence aussi. Est-ce que parfois tu te dis, là je suis content de moi, je suis satisfait ?
Je suis content, et je suis pas le genre de personne qui est éternellement insatisfaite et qui est toujours en train de râler. Mais pour le coup, je suis très exigeant envers moi-même, envers les équipes, mais de manière très bienveillante. Moi, ce qui me plaît, c'est de pousser au maximum les personnes qui m'entourent dans leur potentiel. C'est-à-dire que je vais pas être un mec hyper affable, tu vois, je vais pas faire semblant. Moi, j'aime pas faire semblant. Je suis un peu pas autiste, mais tu vois, je suis très concentré, et je vais pas demander 50 fois aux gens, alors ton week-end il était cool, comment ça s'est passé, parce que franchement ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de les prendre et de leur dire, voilà, c'est quoi ton rêve, comment on fait pour y aller, est-ce que ça c'est ta passion, et de les faire évoluer. Donc j'ai cette image du mec sympa, mais qui va pas faire du pathos.
Ouais.
Et c'est comme ça, en étant moi-même, que je pense que je peux réussir à engager les gens autour de moi, à les faire avancer, évoluer. Et ce qui est cool, c'est de trouver les bonnes personnes qui t'entourent et qui vont compenser cet aspect-là. C'est-à-dire qu'autour de moi, j'ai ce que j'appelle des soldats, des personnes qui vont vraiment réussir à combler les trous et les manquements que moi, je peux avoir. Et c'est une des clés, avoir confiance en soi, être passionné, mais aussi être bien entouré.
T'as rencontré quelqu'un dans ton parcours comme ça, qui t'a poussé comme tu peux pousser les autres ?
La seule personne qui a cru en moi, c'est une fille qui s'appelle Mélanie, qui travaille toujours chez FID. Et c'est marrant parce que, je sais pas, je devais avoir 19-20 ans quand je l'ai rencontrée, j'avais vraiment rien. C'est-à-dire que c'est vraiment au plus bas de ce que tu peux être. Et à ce moment-là, bizarrement, personne ne croit en toi. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui, Anthony, c'est trop cool, bravo, tu vas faire des trucs incroyables. C'est normal parce que tu vois, ils voient le début de réussite. Mais à cette époque, j'étais franchement aussi intelligent, voire plus, parce que j'étais vraiment dans le feu. Personne ne m'a jamais dit, t'es intelligent ou tu vas réussir. Et cette fille, elle m'a croisé, on se connaissait pas. On a parlé 10 minutes, et au bout de 10 minutes, elle m'a dit, c'est ouf, tu vas faire de belles choses, moi je crois en toi, tu vas y arriver. Et à partir du moment où j'ai reçu ce regard bienveillant, ça a vraiment changé un paradigme crucial en moi, c'est que je devais rendre des comptes à quelqu'un. Et j'étais plus le seul à me dire, bon, t'as pas l'air trop débile, tu pourrais faire un truc. Et cette fille, du coup, on est resté ensemble pendant 8-9 ans en couple. Après, on s'est séparés parce qu'on a tellement travaillé, je pense, qu'on était plus des associés que dans une relation de couple traditionnel. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une personne en qui j'ai toute confiance. Et c'est la seule personne, je pense, où je dis, s'il faut que je meure pour qu'elle vive, je le ferai sans hésiter parce que je sais que ce que je suis aujourd'hui, je lui dois, et c'est pas le cliché de dire derrière chaque grande personne, parce que je veux pas dire derrière chaque homme, parce que tu vois, ça marche aussi dans l'autre sens. Même pour une femme qui a réussi, il y a toujours quelqu'un qui est en support. Alors, une femme, un homme, peu importe.
Mais l'entourage, t'as besoin d'avoir du support. L'entourage est hyper important, enfin, bien s'entourer, enfin, avoir les meilleures volontés du monde. À un moment donné, si on a un environnement qui est néfaste, qui tire pas vers le haut, etc. C'est handicapant.
Mais d'où l'important, si tu vois, ce regard bienveillant. Je pense que quand tu parles de ton parcours, on se doute que avant ça, tu l'as pas forcément eu. Et cette reconnaissance et ce petit coup de, tu vois, cette petite tape sur l'épaule qui dit, voilà, tu crois en toi, moi je crois en toi, je suis fière de toi, etc. Et d'où l'importance. Nous, on l'aborde beaucoup parce que je pense que les adultes abîmés d'aujourd'hui sont les enfants qui ont été abîmés hier. C'est tellement important. Et on parle de l'école, mais il y a aussi l'environnement familial. Et d'où l'importance d'avoir des environnements aussi sains dans le privé, parce que bien sûr on peut se dire que les moments difficiles de nos vies ont fait que on a encore plus la gagne et on a encore plus envie d'y aller, etc. Mais je pense que la bienveillance ce n'est pas de la faiblesse, et on a souvent associé, tu vois, ce truc là de la gentillesse, du coup de pouce, du coup de main, à un truc un peu faible, un peu ou qui représentait pas le côté très patriarcal, du viril et du voilà. Mais en fait, on ne se fait pas tout seul réellement. Je veux dire, on peut se dire qu'on compte que sur soi-même, parce que je pense que c'est hyper important et tu l'as démontré. Je veux dire, ton parcours, à un moment donné, tu y as toujours cru et personne ne l'a fait à ta place. Mais le fait d'avoir une main tendue, à un moment donné, ça peut être capital. Et je pense que c'est aussi pour ça que tu as envie de tendre toutes ces mains aujourd'hui dans ton combat. Et moi, je me demande comment est-ce que, du coup, en construisant tes équipes, comment est-ce que tout ça, ça a pu te guider ? Est-ce que vous avez des politiques, tu vois, au niveau management particulières chez FID qui reflètent un peu toutes ces valeurs ?
Oui, c'est important de renvoyer l'ascenseur, et tu l'as dit, pas oublier d'où tu viens. Et c'est pour ça que moi, je me mets volontairement dans un style de vie compliqué, comme si je n'avais pas d'argent, pour pas oublier, parce que je pense que rester connecté, rester les pieds sur terre, c'est la clé. Et je vois beaucoup de gens autour de moi qui ont de l'argent, et qui zappent d'où ils viennent, qui vont mal parler au serveur, alors qu'eux-mêmes étaient serveurs il n'y a pas longtemps. Et c'est d'autant plus atroce. Admettons, t'es né riche, tu ne te rends même pas compte ce que c'est que d'être serveur. C'est évidemment pas une excuse, mais bon, tu ne fais pas attention. Mais quand toi-même, tu as été serveur, tu ne peux pas mal parler au serveur. Tu vois, c'est un truc qui me choque. Et du coup, moi, je vis toujours dans un appartement de 40 mètres carrés. Je n'ai même pas de canapé. C'est-à-dire que j'ai un bureau et un lit. C'est vraiment hardcore. Mais c'est comme ça que je trouve mon épanouissement, parce que ça me rappelle d'où je viens. Et la deuxième manière de le faire, c'est via le programme de solidarité Feedback, où on va aider des jeunes qui sont, pareil, dans des situations très compliquées, soit parce qu'ils sont étrangers, soit parce qu'ils sont handicapés, soit parce qu'ils ont des parents violents, peu importe.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Et les voir dans cette difficulté, dans ce process, me renvoie à ma situation de vie initiale, et c'est une sorte d'effet miroir. Eux se voient en moi et se projettent.
Mais t'as peur d'oublier ?
Ouais, j'ai peur d'oublier, et j'ai peur de devenir con, en fait. Ouais. J'ai
très peur. Tu crois qu'on peut oublier ça ?
Ouais, parce que, en fait, ton cerveau supprime ce qu'il n'aime pas. Et moi, je le vois, par exemple, j'ai beaucoup de mal avec les dates. Et les psys me disent, c'est normal, ton cerveau supprime les trucs dont tu ne veux plus entendre parler. Et quand j'ai écrit le livre, c'est marrant, j'ai des flashbacks que j'avais complètement sortis de ma tête.
Bah, l'écriture, c'est...
Du coup, tu te raccroches à quelque chose de très matériel pour te rappeler d'où tu viens.
Ouais, c'est ça, parce que c'est un peu ce qui me reste. Aujourd'hui, je peux m'acheter ce que je veux. Donc, j'ai plus du tout cette peur de... Enfin, tu vois, aujourd'hui, je vais au restaurant. À aucun moment, je me dis, attention, on est le 27 du mois, où je veux m'acheter des fringues, je m'achète ce que je veux, je pars en vacances, je pars où je veux. Et du coup, le dernier truc qui me retient, c'est ce style de vie spartiate, vraiment très ascétique, à l'inverse de des épicuriens. Mais j'aime encore une fois, et c'est important, il y a plein de gens qui me disent oui, tu le fais pour des raisons marketing, mais pas du tout. En fait, j'adore ça. C'est-à-dire que je suis bien dans mon appartement. Et je pense que c'est important d'avoir ces repères qui te permettent de ne pas perdre pied. Parce que je le vois même moi parfois, quand tu gagnes beaucoup d'argent d'un coup, forcément ça te fait tourner. Moi j'économisais pour manger à la fin du mois, et quand je me payais un kebab à 3,50€, c'était vraiment la sortie du week-end pour moi quand j'étais jeune. Et aujourd'hui on parle de vacances à je sais pas combien la semaine, mais je vais même pas en parler tellement c'est indécent, tu vois. Et quand je vois au-dessus de moi, je pense que les gens ne réalisent pas, le peuple, et je m'inclus dedans, hein, le peuple ne réalise pas ce qui existe aujourd'hui. Et si les gens voyaient ce que moi je vois, il y aurait une révolution demain. Quand je vois les gilets jaunes qu'ils font parce que le prix de l'essence a augmenté ou parce que l'impôt, on parle de 200€ par mois, ouais, s'ils voyaient qu'il y a des gens, moi j'en ai dans mon entourage, qui prennent des jets privés à 50 000€ juste pour aller dire bonjour à leurs copains ou leurs copines et revenir dans la foulée, donc ça leur fait 100 000 balles pour faire un bisou ou un câlin, je pense que les gens pèteraient un câble.
Mais c'est, ça doit être parfois compliqué pour toi d'être dans cette ambivalence, tu vois, de mondes qui sont complètement opposés.
Très clivants.
Ouais,
en fait,
mais complètement.
C'est très dur et je pense vraiment, très humblement, être un des seuls à avoir vécu ces deux extrêmes. Parce que moi, c'était vraiment l'extrême. Je dormais dans la rue, sous les ponts. Je vivais dans des banlieues et on vendait du shit pour pouvoir manger le soir. Et là, d'un coup, je me retrouve avec les plus riches du monde. C'est-à-dire qu'il y a certains proches, c'est vraiment des milliardaires en centaines de millions qui ont nos limites, qui n'ont jamais eu besoin de travailler de leur
d'où
vie.
D'où le besoin d'avoir l'appartement. Enfin, c'est un sacré repère.
T'es obligé quand parce qu'en fait, tu pètes un câble. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui est fou, c'est que plus t'es riche, moins tu payes. Parce qu'en fait, t'as des amis partout qui t'invitent tout le temps. Chacun a un jet privé, un hélico, un truc. Et donc, tu te retrouves à moins payer. T'es invité à droite, à gauche, les restos t'invitent. Enfin, tout le monde t'invite. Et en fait, tu déconnectes et tu penses. J'en ai beaucoup de moi qui pensent que c'est des génies, tu vois.
Ouais.
Les mecs se disent, ouais, je suis vraiment fort. Et ils sont tous persuadés que la méritocratie est la cause de leur réussite. Alors qu'en réalité, il y a toujours une part, évidemment, de ce que j'appelle le TTC, donc travail, talent, chance. Mais une fois que t'es lancé, les gens oublient qu'ils ont travaillé très dur pour en arriver là. Et alors là, c'est très dangereux. Et c'est pour ça, et moi j'aime bien, qu'il y a aussi des échecs terribles. Et que dans les familles qui ont gagné beaucoup d'argent, ça se détruit aussi à un moment. Il y a trois générations, la génération qui crée, la génération qui profite, la génération qui détruit. Et un peu comme la famille Gucci, pour ceux qui ont vu le film il n'y a pas longtemps là, au cinéma. Bon, mais parfois, ils sont tellement mauvais que dès la deuxième génération, ils crament tout. Donc il y a aussi quand même ces cartes qui sont rebattues de temps en temps. Et ça laisse un espoir à tous ces jeunes qui viennent d'en bas, parce qu'il y a des mouvements technologiques qui sont tellement forts que tu peux surfer dessus. Typiquement, nous, on n'a pas eu les époques industrielles où les matières premières, le pétrole, les diamants, le trading dans les années 80 ou l'immobilier dans les années 90. Mais on a eu quand même le web 1. Ce que j'appelle le web 1, c'est le web où tu as un affichage, tu absorbes de l'information sans pouvoir la partager. Tu as eu le web 2 avec l'avènement des réseaux sociaux où là, tu pouvais créer du contenu et l'envoyer, donc tu communiquais avec les autres. Et maintenant, le web 3 où tu peux gagner de l'argent et avoir une automatisation dans les smart contracts, dans les NFT qui vont te permettre de monnayer tes propres créations.
Et tu ne l'apprends pas à l'école, ça.
Et ça, tu ne l'apprends pas à l'école. Et donc, du coup, il y en a plein. Je pense à Asher, que j'aime beaucoup, qui a 24 ans. Il est multimillionnaire, sa famille n'avait pas d'argent, mais il est tombé dans le Bitcoin au bon moment. Il a étudié, il a travaillé plus que les autres. Maintenant, il a un empire dans le Web 3. C'est magnifique. Ça, c'est une réussite qui montre que c'est encore possible. Alors évidemment, c'est compliqué. Évidemment, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça dépend de vous. Et c'est surtout pas en étant dans la complainte ou dans le caliméro que vous réussirez. Donc, j'ai cette chance de pouvoir dire à tous les jeunes, la légitimité, la crédibilité, arrêtez de vous plaindre et ne nous prenez pas la tête avec vos histoires, parce que oui, c'est triste, oui, tes parents, ils sont méchants, oui, t'étais dans la rue, mais nous aussi, on l'a été. Et donc, du coup, on peut te dire de travailler. C'est ce qui manque aux politiciens aujourd'hui, parce que les politiciens, ils te disent, il suffit de traverser la rue pour trouver du travail.
Mais c'est quoi que t'entends par se plaindre, alors ?
Se plaindre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'en bas et qui vont utiliser cette situation sociale pour justifier un manque d'engagement. Et j'ai beaucoup de jeunes encore aujourd'hui, même des gens de Pessac qui étaient à la banlieue où moi j'ai grandi.
Il y a aussi des gens qui n'ont pas envie d'être engagés.
Oui, il y en a aussi, mais c'est un peu comme ceux qui te disent l'argent ne fait pas le bonheur, on s'en fout, ça ne sert à rien. Soit pour moi, c'est des gens qui en ont toujours eu et donc qui ne réalisent pas à quel point c'est incroyable d'avoir de l'argent. Ou alors, c'est des gens qui n'en ont pas, mais qui savent que ça va être trop dur d'aller en chercher. Donc encore une fois, moi, l'objectif, ce n'est pas de dire tout le monde doit être très ambitieux. Il y a des gens qui sont satisfaits parce qu'ils ont une famille, parce qu'ils pêchent, parce qu'ils chantent. Et ça, c'est super. Il n'y a pas de débat. Hein. Je ne dis pas que tout le monde doit vouloir conquérir le monde. Mais il faut avoir le courage d'aller chercher ses passions. Et ce qui me fait beaucoup de peine, c'est de voir des personnes dans un métier qui ne leur plaît pas et qui se disent « Ah,
désinvesti,
enfin, enfin le week-end ». Et en fait, cette phrase, pour moi, est catastrophique. C'est-à-dire que les gens qui se disent « Enfin, je suis en week-end », c'est terrible. Parce que ça veut dire que 5 jours sur 7, ils font quelque chose qui ne leur plaît pas et ils vont se libérer le week-end. Alors attention, c'est pas le monde des Teletubbies, mais aussi parfois je suis content de me reposer, etc. Mais tu vois, cette libération que tu vois parfois le vendredi soir,
à ta réalité,
ils échappent, ils se bourrent la gueule, tu vois, le vendredi soir en ce mode « Ah, j'oublie tout », ça pour le coup, c'est que t'es pas dans le bon axe, à mon avis.
Ouais, et en même temps, c'est tellement complexe. Alors, je ne peux pas être complètement d'accord avec ce que tu dis.
Tu es psy, donc c'est normal.
Je
ne
peux pas être complètement d'accord
l'empathie.
Avec ce que tu dis, parce que c'est tellement complexe, ça dépend de tellement de choses, de tellement de facteurs, que des fois, tu as beau avoir la meilleure volonté du monde aussi, des fois, tu n'es pas aidé, quoi. Enfin, tu vois. Et je ne dis pas que toi, tu as été aidé, hein, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais je veux dire, des fois, tu as des personnes, par exemple, si je prends, une maman qui est dans son travail, qui est au bout de sa vie, mais qui a des enfants, qui a des charges à payer, qui machin, pour sortir de cette réalité-là, pour sortir de son quotidien-là, franchement, des fois, c'est compliqué, tu vois ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'engagement ou qu'elle n'en a pas envie,
mais
ça veut juste dire que des fois, en fait, la réalité aussi des vies...
Ouais.
Que les gens mènent, elles sont tellement dans ce système-là, hein, dont tu parles depuis tout à l'heure, que parfois c'est compliqué aussi d'en sortir malgré tout ce
oui,
que tu...
Oui, toute la volonté. Non mais je vois ce que tu veux dire, mais je pense que là du coup, il y a même un enjeu politique en fait.
Oui, des fois ça dépasse tout ça, tu vois. Et puis par exemple, après là j'extrapole peut-être, mais quelqu'un qui est en dépression par exemple, parce que ça existe quand même, tu vois, c'est pas juste de la plainte, il y a des gens qui sont vraiment en dépression, c'est des pathologies qui sont handicapantes au quotidien et t'auras beau leur dire, vas-y, donne tout ce que t'as. Ils ont rien à donner sur le moment parce qu'ils sont pas en capacité de le faire, tu vois.
Clairement, quand plus tu avances dans le système et plus tu es intégré dans le système, plus c'est compliqué de t'en sortir. Mmh. Et typiquement, la maman qui est dans un métier qui lui plaît pas, qui a un crédit sur le dos, ça va être extrêmement compliqué. Pour autant, c'est un peu comme le loto, il y a que ceux qui ont joué qui ont gagné. Ça ne veut pas dire que c'est garanti que tu y arrives. Mais si tu veux avoir une vie qui t'épanouit, t'es obligé de sortir de ta zone de confort et de te lancer. Maintenant, c'est clair que plus tu attends, plus c'est compliqué. Et c'est pour ça que moi, j'invite tous les jeunes à poser leur brand plateforme le plus tôt possible. Mmh. Parce que cette maman dont tu parles, si plus tôt elle s'était posé la question, et encore une fois, chaque parcours est différent, c'est pas du tout pour juger, stigmatiser ou ostracer.
Oui, mais faut-il encore avoir le feedback aussi de se poser feedback. Cette question-là, tu vois.
Ouais, et c'est pour ça qu'il faut qu'on inspire, et c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle. Et les jeunes, et c'est ce que je leur dis toujours, avant d'acheter une maison et de vous engager pendant 20 ans à la payer avec votre mari ou votre épouse que vous venez de rencontrer il y a 6 mois, si j'exagère un peu, posez-vous les bonnes questions, parce que on est trop dans le conformisme, et c'est un peu ce qu'on reproche à les petites filles. On leur donne une Barbie, on lui dit va chercher ton Ken et joue, regarde, elle est blonde, elle est mal. Enfin, c'est pas ça la vie. Il faut pas rentrer dans les cases, il faut absolument réussir à se poser soi-même, qu'est-ce qui m'éclate, quoi. Est-ce que c'est le voyage? Est-ce que c'est la peinture? Est-ce que c'est les mathématiques? Et se poser les bonnes questions, c'est la clé. Mais je suis d'accord avec toi, ce qui est terrible, c'est que quand tu viens d'un milieu défavorisé, la plupart du temps, c'est même ton entourage t'empêche de faire ce travail. Bien parce sûr. Que c'est un peu comme si tu voulais devenir un transfuge de ta classe sociale. Mmh. Et moi, je l'ai vu, mon père était contrôleur, son grand-père était contrôleur, son arrière-grand-père était contrôleur à la SNCF. Et on me reprochait de ne pas vouloir travailler à la SNCF. Et c'est
limite,
on me posait un bleu de travail sur les épaules, tu vois. Et donc, tu es dans une reproduction sociale, effectivement, qui est terrible. Et c'est les autres qui
se disent,
ne t'en va pas. Et ça, c'est ouf, parce qu'en fait, avant même que tu aies essayé de commencer... T'as ta propre famille qui va te maintenir. Pourquoi ? Parce que si elle te voit réussir, c'est aussi une manière pour elle de réaliser leurs propres échecs. Et donc, parfois, il faut être capable, encore une fois, chaque histoire est différente, mais de couper toutes les relations pathogènes autour de toi, même quand c'est tes parents, tes frères, tes sœurs. Et
ça des fois, c'est déjà le travail de toute une vie, j'ai envie de te dire, de couper les relations pathogènes autour de toi.
C'est la clé, c'est-à-dire que tu peux
pas réussir. Et je suis d'accord avec ça, le fait de bien s'entourer, on n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai que rien que ça, des fois, ça demande quelques années, tu vois, de travail pour se rendre compte que ok, ben là, en fait, je ne suis pas tirée vers le haut. Et maintenant, il faut que je coupe les liens. Et couper les liens, parfois, avec des gens très proches, tels que ses parents.
C'est dur.
Voilà. Ouais. Sachant que couper les liens, c'est quand même l'extrême. Hein. On peut passer par déjà s'affirmer, poser des limites, dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Poser des bases qu'on a envie d'avoir pour soi. Mais tout ça, c'est déjà un travail personnel qui est tellement énorme. Et puis, tout le monde n'est enfin, c'est peut-être terrible ce que je veux dire, mais tout le monde n'est pas en capacité de faire ça quand même.
En fait, je pense que c'est quand tu as l'envie, te dire que tu as la possibilité, sans que ce soit un chemin qui t'est tracé. Enfin, je veux dire, tu disais tout à l'heure, pour moi, tout le monde n'a pas vocation à être entrepreneur, tout le monde n'a pas vocation. T'as des personnes qui trouvent leur équilibre, et tu vois, cette notion d'équilibre, je trouve que c'est hyper important d'en parler parce que l'équilibre de l'un n'est pas celui de l'autre. Tu le disais tout à l'heure, il y a des personnes pour qui le côté rangé, le côté case, être fonctionnaire, par exemple, la sécurité de l'emploi, etc., ça va être quelque chose qui va tout à fait convenir. Je pense que le message, c'est vraiment de dire qu'à un moment donné, quand tu as un mal-être, on parle de santé mentale dans ce podcast, et tu sens que tu n'es pas aligné avec toi-même, que chaque matin tu te lèves avec ce sentiment d'inachevé, de manque d'accomplissement, etc. C'est pas en claquant des doigts en 3 semaines en te disant je vais tout changer, je sais ce que je veux pour ma vie, mais c'est de se dire que je pense ta condition sociale et plein d'autres facteurs ne sont pas condamnants, je sais pas si on peut utiliser ça comme ça, mais voilà.
C'est tout un process.
Voilà, et ce mais process il mérite d'être encouragé.
Qui dit process dit que ça peut du coup...
Mais oui, mais pour moi, il y a un poids politique. Et tu vois, quand je t'entends parler, Anthony, et tout, mais sur plein de médias sur lesquels j'ai pu t'entendre, je trouve que ton discours, il a même un engagement politique. Et je sais que ça te fait sourire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te le disent. Et aujourd'hui, toi, tu aurais des fonctions politiques, même si ce n'est pas forcément ta vocation. Qu'est-ce que tu mettrais en place? Qu'est-ce qui est pour toi fondamental pour permettre, tu vois?
C'est important déjà de dire que je vote blanc. Parce que j'ai pas envie que les gens récupèrent mon discours. Il y a beaucoup de politiciens qui m'ont proposé de faire partie de leur mouvement, etc. Si jamais je devais faire de la politique, ce qui est vraiment pas mon objectif, ce serait parce qu'il y a un mouvement et un changement total, une 6e République. Hein. Parce que le modèle tel qu'il est construit aujourd'hui va contre mes valeurs qui sont basées sur la méritocratie, sur la conviction personnelle, sur l'indépendance, la légitimité, la crédibilité. Mais il faudrait revoir le système en profondeur pour justement permettre aux individus de trouver cet équilibre dont tu parles, qui est très important, être capable de se connaître soi-même. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont meilleurs en travaillant le matin, d'autres qui sont meilleurs pour travailler le soir, la nuit. Et ça, c'est un vrai travail d'apprendre à se connaître. Et pendant longtemps, moi, j'ai fait des erreurs. Je me levais très tôt en pensant que c'était super bien parce que tous les entrepreneurs disent qu'il faut se lever tôt à 5h du matin, embrasser un arbre, Miracle faire morning. Du yoga. Alors qu'en fait, non, moi, c'est pas ça du tout qui me fait du bien. Moi, je préfère me lever à 8h30, 9h et c'est là que je suis le plus reposé, que je suis le plus performant. Et bref, tout ça pour dire que si je devais faire de la politique, j'essaierais de remettre la méritocratie au cœur du système, au cœur de tout. C'est-à-dire que moi, même les impôts seraient basés sur la méritocratie. Typiquement, je ne veux pas tomber dans un clivage de dire il faut prendre aux riches, machiner, rendre aux pauvres. Ce n'est pas le bon fonctionnement. Ce qu'il faut, c'est qu'on différencie par exemple un riche qui est un héritier et qui n'a jamais rien fait, et j'en ai plein autour de moi, à part aller en boîte de nuit et vivre sur les rentes immobilières de ses parents, VS le riche qui a beaucoup d'argent mais qui a continué à créer des boîtes, qui a continué à créer des emplois, qui a continué à générer de la valeur pour son pays. C'est deux cas de figure très différents. Et idem pour les pauvres, c'est-à-dire que le pauvre qui ne fout rien et qui fait que se plaindre en disant la vie est compliquée, la société est méchante avec moi, il a moins de mérite que celui qui se dit moi je vais essayer de travailler, je vais essayer de m'engager, je vais pas rester dans cette position de Calimero. Et encore une fois, chaque histoire est difficile, je suis pas là pour dire
mais encore faut-il que les personnes aient les chances. Mais oui, j'entends l'idée de replacer le travail et l'engagement de ce qui pourrait être aujourd'hui complètement bafoué par les relations, le pistonnage, le côté cercle social, etc. On sait que c'est très présent et surtout
ça part par l'école. La première grosse mesure, on le dit souvent, c'est cliché, mais l'éducation nationale, c'est pour moi le ministère le plus important. Si on veut en tout cas faire changer le pays et remettre de l'égalité à ce niveau-là, parce que malheureusement, quand tu prends les chiffres, il y a 1% seulement des entrepreneurs qui se sont fait seuls. Tous les autres viennent des grandes écoles, des gros incubateurs, les parents avaient de l'argent, etc. Et ça se passe dès le début. Moi, j'étais en collège de banlieue, en primaire de banlieue, etc. On était content quand il y avait un prof pour nous faire un cours. En parallèle, les personnes que je fréquente aujourd'hui, elles étaient à Henri IV, Louis le Grand, je sais pas quoi, tous les trucs vraiment top dans les quartiers où il faut avoir beaucoup d'argent pour vivre. Ils avaient un niveau largement supérieur au mien quand ils avaient 15 ans, VS moi qui avais 15 ans. Ils étaient dans les meilleurs prépas, ils avaient 3 ans d'avance sur le programme, quand moi j'en avais 2 de retard. Et donc tu ne peux pas lutter.
L'école, c'est le nerf de la guerre.
C'est clairement ça. Et après, il y a de la cooptation. Il faut savoir qu'en France, on est le pays où il y a le plus de cooptation sociale, que ce soit dans le CAC 40. C'est 2 écoles, c'est Polytechnique et l'ENA. Donc il y a 60% des patrons du CAC 40 qui ont fait ces 2 écoles. Et 85% qui ont des administrateurs qui viennent de ces grandes écoles aussi. Quant aux États-Unis, ce qu'on appelle la Ivy League, donc c'est vraiment les 8 plus grosses universités, ne représentent que 20 ou 25% des plus grosses boîtes et des administrateurs. Donc ça montre bien que la France a gardé ces traditions un peu monarchiques où les gens vont faire du mimétisme social, vont se renvoyer des services les uns aux autres. Pourquoi ? On peut même pas les blâmer, tout simplement parce qu'ils ont grandi ensemble. Et donc, quand tu as grandi avec quelqu'un, quand tu réussis, bah, tu fais croquer ton pote. Sauf que le problème, c'est qu'après, c'est toujours le même type de pote. C'est comme les entrepreneurs. Hein. L'écosystème start-up, pour moi, est le cliché de ce qu'on dénonce en ce moment même.
Mais du privilège, en fait.
C'est le privilège des hommes blancs de 30 ans qui ont fait HEC, dont les parents avaient de l'argent. Tu verras pas une femme noire fondatrice à Paris. Hein. Et donc, bon, tu vas toujours me trouver un contre-exemple, mais la réalité, mais c'est qu'il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas d'immigrés, il y a pas... C'est comme ça. Et en fait, les startups, comme c'est un nouveau mouvement qui explose et qu'il y a beaucoup d'argent dans le monde des startups, je pense que les gens ne réalisent pas. Hein. C'est des centaines de millions qui sont investis chaque semaine dans les startups. C'est colossal, rien qu'en France. Et ben, les premiers à s'y être engouffrés, c'est qui ? C'est ceux qui avaient l'information. Et l'information, c'est dans les grandes écoles, c'est les ventures capitalistes, les investisseurs, les LPs, qui ont dit à leurs petits enfants, cousins, nièces, va dans les startups, c'est là qu'il y a du blé. En fait, c'est fini.
C'est pour ça que je vois, tu vois, même sur ton compte Instagram, pour le coup personnel, que tu essaies de diffuser vachement d'informations, notamment sur tout ce qui fait sur la crypto-monnaie, etc., l'NFT et tout ça. Mais est-ce que c'est une volonté aussi d'utiliser cette voie pour démocratiser l'accès à cette information qui, il y a trop longtemps, et encore aujourd'hui, hein, faut être honnête, était dans les mains de ceux qui avaient déjà ?
C'est fou, et tu as raison, tu pointes quelque chose de très intéressant. C'est que les anciens riches produisent les nouveaux riches. Un exemple, ce qu'on appelle des LPs, donc c'est les limited partners, c'est les investisseurs des investisseurs. Donc tu as les VC, qui sont les venture capitalists, c'est les fonds d'investissement qui investissent dans les startups. Et au-dessus d'eux, il y a ces LPs. Et c'est des grandes familles industrielles, c'est les héritiers, c'est eux-mêmes qui donnent des guidelines, qui disent aux investisseurs, vous allez investir chez les hommes qui ont fait telles écoles, qui se lancent dans tel business. Et donc ils reproduisent eux-mêmes leurs enfants. C'est-à-dire qu'il y a des cas de figure, je ne vais pas les nommer, mais ils se reconnaîtront. Le père était directeur d'une grande banque. Et il a financé la fintech de son fils. Ouais. Et il réussit, ça n'enlève rien à son mérite, hein, attention. Mais je trouve que c'est le comble. C'est comme si moi, mon père était ingénieur agroalimentaire chez Danone et qu'il avait financé Feed. Tu vois, c'est la même chose. Et c'est super important que les jeunes qui sont défavorisés aient accès à cette information. Et après, la balle est dans leur camp. C'est exactement ce qu'on essaie de faire avec le Web3, avec la crypto. C'est que tu demandes à un jeune qui a 15 ans et qui vit à Jonzac, à mon avis, c'est même pas ce que c'est le Web 3, il en a jamais entendu parler. Tu vois, grossis le trait parce que maintenant, avec Internet, t'as accès à l'information. Mais les gens ne réalisent pas. Moi, une start-up, je savais pas ce que c'était à 28 ans. On m'avait jamais dit, tu peux lever 50 millions d'euros, ce que j'ai fait par la suite, en ayant un peu de bagou et en faisant un deck. Moi, ça me paraissait lunaire. Quand j'étais jeune, je me disais, ouais, si j'arrive à avoir 1 million d'euros, j'aurais vraiment réussi. En fait, je réalise qu'un million d'euros, et ça peut paraître choquant, c'est rien. Oui, un million d'euros, tu fais rien avec ça à Paris. Bien c'est sûr. Même pas le prix d'un studio. Donc, il faut donner de l'info, et c'est le rôle des réseaux sociaux, à mon sens, de créer des posts qui font du sens pour les autres et pas pour soi. Et c'est la grande différence que je fais entre un influenceur qui a de l'intérêt, un influenceur qui n'en a pas. C'est quelqu'un qui poste pas pour lui, mais qui poste pour son audience en essayant d'apprendre des choses. Et là, du coup, tu filtres, parce qu'il y en a beaucoup qui se mettent parce qu'ils sont beaux ou belles, en maillot, machin, truc. Et en fait, ça, c'est de la flatterie personnelle. C'est pour montrer son corps, c'est pour montrer sa voiture, pour montrer ses vacances, mais pas pour expliquer aux autres comment réussir.
Toi, ça correspond à ta mission, en fait. On sent que t'es, même dans la façon dont t'en parles et tout, t'es aligné avec... et limite, tu vois, ton entreprise, je pense que Feed, maintenant, c'est devenu un vecteur de tout ça, c'est-à-dire que le projet il est en route, il fonctionne, et maintenant toi en tant que chef d'entreprise, t'as envie de porter ce message encore autant même que tes produits ou que ce que tu vends en fait.
C'est la clé pour avoir une boîte qui fonctionne, c'est que celle-ci devienne un média, un amplificateur de ton message personnel. La boîte est le prolongement de ce que tu es, surtout en B2C, donc en direct to consumers, quand tu vends un produit, ça s'oppose au B2B où tu vends un service aux entreprises. Donc quand tu es en B2C, c'est vraiment important que tu sois tellement authentique et tellement vrai, que tu aies un message à porter, que la boîte devient un média. Et tu le dis très bien, Feed, aujourd'hui, on vend de l'alimentaire, on vend des bars pour tous les moments de la journée. La réalité, c'est que si on vendait des chaussettes, ça marcherait aussi, parce que c'est un message qui est fort et qui est authentique. Et du coup, le storytelling est bien plus bird view, bien plus philosophique que le produit qu'on vend en lui-même. Et toutes les boîtes qui fonctionnent, tu regardes Respire avec la bienveillance de Justine, qui est d'ailleurs pas du tout dans même trait que moi. C'est-à-dire que moi, je suis très militaire, guerrier, détermination. Elle, c'est vraiment bienveillance, sport, gentillesse. Tu prends Barouders avec Edwige, elle, c'est la sportive qui adore faire de l'outdoor. Bon, ben, elle vend des produits outdoor recyclés parce qu'elle veut pas avoir d'impact, elle veut lutter contre la surconsommation, etc. Ça marche pourquoi ? Parce que ces gens sont engagés Et le produit, c'est la finalité d'un combat qu'ils ont commencé il y a des années.
Ouais, t'es aligné. Ce serait donc ça la clé. Être aligné avec soi, avec sa mission.
Oui, franchement, déjà, quand tu fais ce que t'aimes, il y a une différence entre je vis ma vie à faire ce que j'aime et je vis ma vie à ne pas faire ce que j'aime. Bien. Enfin, on est bien d'accord. Enfin, donc oui, évidemment. Plus tu te centres vers tes valeurs, qui tu es, et plus tu mets des actions vers ce que tu as envie d'être et ce que tu as envie d'avoir, et plus, a priori, tu t'approches de
du ce bonheur.
Qu'on pourrait appeler du bonheur. Mais chacun a sa définition de ce qu'est le bonheur après. Hein.
Oui, mais c'est, je pense, un message important de dire que voilà, c'est possible et que demain...
Ce qui est sûr, c'est que tu es animé par ça et que ça fait vraiment... oui. Tu as investi cette mission-là et tu nous embarques avec toi quand tu en parles dans le sens où on sent que ça te tient à cœur.
Ouais, et ça, je pense que ça, tu vois, cette onde dont tu parlais au début qui ricoche, je pense qu'elle ricoche. Tout le monde n'y est peut-être pas sensible, mais en tout cas, les personnes qui doivent l'être le ressentent. Et merci pour ton témoignage. Merci d'être venu parler à notre micro.
Merci à vous pour l'invitation.
Merci beaucoup.
N'hésitez pas à vous abonner au podcast, le partager autour de vous et le noter sur toutes les plateformes d'écoute.
À bientôt.